point numéro 5, il s'agit de dénomination de voirie. Monsieur Fonté.
Merci, monsieur le maire. Dans le cadre de l'aménagement des quartiers Mesnor et Amphithéâtre, il est nécessaire de procéder à la dénomination des voies publiques ainsi qu'à certaines modifications. Alors, tenant compte des principes de l'odonymie messine, il vous est proposé de dénommer la nouvelle place située aux intersections des routes de Thionville, rue des Prémontés, rue Yvan Gol, vous avez là la carte qui s'affiche, place Jean Jaurès. Tout le monde connaît Jean Jaurès, homme politique, leader du socialisme français, brillant universitaire, arrivé premier à l'école normale supérieure devant Henri Bergson, journaliste et député républicain, fondateur de l'Humanité, journal historique s'il en est et qui aujourd'hui encore alimente la presse française de son analyse pertinente sur le mouvement ouvrier, pacifiste militant. Il s'attire l'hostilité des milieux nationalistes et est assassiné le 31 juillet 1914, à la veille de la Première Guerre mondiale. Et il est également proposé, et cela va de pair, la rue Georges Velle, qui est le tronçon de route du Thionville allant de la rue des Alliés à la place Jean Jaurès, nouvellement nommé Georges Velle, homme politique, en 1912, commandant la première annexion allemande, est élu député socialiste de Metz au Reichstag, puisque c'était le Reichstag, correspondant à Berlin du journal L'Humanité, compagnon de route de Jean Jaurès. Il est à ses côtés lorsque celui-ci est assassiné le 31 juillet 1914. Et donc, il y a en toute logique ce tronçon de rue dénommé Georges Velle va de pair avec Jean Jaurès. Alors, il est demandé aussi de redéfinir le tracé de la rue des Messageries, désormais articulée de la rue Lothaire à l'avenue François Mitterrand. Donc, vous avez le tracé. De dénommer la nouvelle voie articulée de l'avenue André Malraux à l'avenue Louis Le Débonnaire, rue Jean Lorrain, que vous connaissez tous. Vous avez travaillé longuement avec lui pendant des années. De ancien ministre, homme politique français, engagé dans la résistance, député socialiste de la Moselle, etc. Fonction de ministre aux anciens combattants, de dénommer également la nouvelle passerelle sur la rivière Seille, assurant la liaison entre Metz-Quartier Amphithéâtre et Metz-Quartier Queuleux, passerelle du Graouli. La légende du Graouli, je ne vous l'expose pas, vous la connaissez. Le point numéro 6. Écoutez, je vous la raconterai ce soir avant d'aller au lit. D'accord. C'est plus sympathique. De dénommer le nouveau pont sur la rivière Seille reliant l'avenue de l'Amphithéâtre à l'avenue de Plantière, pont neuf de la Seille. La motion est en conséquence.
Bien, alors, je vais prendre... C'est toujours un sujet passionnant. Alors, Madame Zimmermann, Madame... Monsieur Lebeau, Monsieur Thiel, Madame Quillot, Monsieur le Maréchal...
Levez le point.
Monsieur Maréchal, Monsieur Lecoq... C'est tout. Alors, on y va. Alors, Madame Zimmermann.
Voilà, Monsieur le maire, simplement pour vous redemander une nouvelle fois, est-ce qu'on pourrait espérer, comme par exemple la commune d'Henry vient d'enclencher un processus de donner peut-être des noms de femmes à certaines rues, à certaines places. Henry a donné la place Lucie Aubrac. J'aimerais bien, s'il vous plaît, monsieur le maire, que vous nous disiez le jour où vous aurez décidé de vous lancer dans l'opération. Merci beaucoup, monsieur le maire.
Merci.
Alors, la parité, je vais vous dire, elle ne sera même pas réalisée. De toute façon, même pas pendant votre mandat, et à mon avis, dans 10 mandats, ça ne sera pas réalisé. Mais est-ce qu'on peut espérer, monsieur le maire, que vous lanciez l'opération ?
Je vais vous répondre.
Merci, monsieur le maire.
Mais non, mais je vais laisser parler... Parce que peut-être sur le même sujet, Monsieur Lebeau, sur la parité peut-être.
Oui, alors si vous, Monsieur le maire, chers collègues, pour revenir sur la parité, vous aviez présenté notre motion que vous avez retirée au mois d'avril et figuré le nom d'une femme. On ne peut que regretter que le nom de cette femme ait été regretté dans cette motion et consterné que dans cette motion, il n'y ait que de nom d'homme. Mais revenons à l'essentiel de mon propos, qui n'était pas celui-ci, puisque... Le soir de votre élection, il y a 4 ans déjà, vous avez déclaré vouloir être le maire de tous les Messins. Mais rapidement, le masque est tombé. L'idéologue sectariste s'est montré au grand jour. Non seulement vous méprisez l'opposition municipale,
mais vous méprisez les Messins. Vous stigmatisez les quartiers et attribuez des bonnets d'âne à ceux qui émettent un avis discordant du vôtre. Magny, ces affreux propriétaires de maisons individuelles endettés pour 25 ans. La nouvelle ville, le Neuilly-sur-Moselle. Vallières, hostile à la dénaturation du site que vous avez finalement abandonné sous la pression populaire. Ce soir, votre sectarisme et votre aveuglement se portent aussi sur les noms de rues. Dans un abscons souci d'équilibrer l'odonymie messine au profit des hommes de gauche, je vous cite, vous méprisez cette fois-ci la ville de Metz et sa prestigieuse histoire. Jamais, par le passé, le conseil municipal de Metz n'a honoré de personnalité sans lien avec notre ville. Jamais elle n'a honoré des personnalités parce qu'elle serait de droite. Si les noms de militaires et de curés sont si nombreux dans les rues de Metz, c'est uniquement parce que Metz a longtemps été une ville de curés et de militaires, et vous en savez quelque chose, monsieur le maire. Donc, chercher un rééquilibrage au profit de la gauche est complètement absurde. Monsieur le maire, quels sont donc les hommes politiques de droite qui ont une rue à Metz? Personne, parce qu'ils sont des hommes de droite. Vous avez honoré François Mitterrand à une époque où l'héritage de ce président provoquait plus de remous que de respect. Mais bon, François Mitterrand avait des liens forts avec Metz, ce qui n'est absolument pas le cas pour Mendès France, grand homme politique français, mais qui est une rue de plus ne lui apporte rien ni à ses descendants. Ce soir, vous nous proposez rien de moins que Jean Jaurès. C'est vrai que l'homme est devenu tendance. Après Sarkozy qu'il avait repris à son compte, vous, même Marine Le Pen l'a repris. Alors pourquoi pas Dominique Gros ce soir? Après Jaurès, et pourquoi pas Léon Blum, et après Torres pour faire plaisir à monsieur Maréchal.
Georges Marchais.
Si on peut, monsieur, si vous pouvez, si je peux m'exprimer dans le calme. Jaurès possède évidemment des vertus humanistes, incontestables, mais là n'est pas le sujet. L'odonymie messine n'a pas pour vocation à accueillir toutes les gloires nationales, mais Messine, un livre récent sur le nom des rues, le rappelle. Et même une conférence dans les grands salons l'a rappelé. Quant à Georges Weill, on touche au comique troupier. Une rue pour lui, pourquoi? Est-ce parce qu'il fut le premier député socialiste à Metz, alors qu'il s'est toujours intéressé à l'Alsace et non à Metz? Quel intérêt pour les Messins? Pour l'histoire, j'en doute encore plus. Parce qu'il était présent lors de l'assassinat de Jaurès? Alors, si tous les témoins de scènes de crime ont droit à leur nom de rue, nous avons de quoi honorer du monde et créer beaucoup, beaucoup de nouvelles rues. Metz n'était pas une ville française en 1914, quand Jaurès se fait assassiner. À cette époque, il milite contre la guerre et ainsi contre le retour de Metz à la France. Certes, s'il vous plaît, on peut s'exprimer dans le calme.
C'est tellement drôle, continuez.
Mais je sais bien que...
Laissez parler l'orateur.
Il y a très peu de Messins de racines et nés à Metz. Et donc, je comprends que M. Lioger se gausse. Mais s'il était aussi amoureux de l'histoire de Metz que nous le sommes, eh ben, il rirait beaucoup moins. Donc, je reprends mon propos. Certes, Metz n'est pas une ville française de l'intérieur, mais une ville...
Ça devient pénible.
Chut. Non, monsieur le maire, est-ce que... Mais monsieur le maire, il peut y avoir pas deux poids, deux mesures. À chaque fois, je suis obligé de vous rappeler que je n'ai pas le droit à la bronca. Pourquoi j'aurais le droit à la bronca? Et quand d'autres orateurs se font interrompre, vous rappelez à l'ordre. C'est vraiment insupportable, ce deux poids, deux mesures. Alors, monsieur le maire, soit vous prenez votre rôle de police au sein de cette assemblée.
Allez-y, monsieur, vous perdez du temps, allez-y. Là.
Non, monsieur le maire, attendez, allez-y. Je veux dire, c'est insupportable. Je veux dire, vous avez dit qu'on était une assemblée normale, dans une ville juste. Alors j'aimerais bien que la normalité et la justesse s'appliquent aussi à mon cas.
Mais vous ne transformez pas en victime, tout le monde vous aime, allez-y.
Non, mais monsieur le maire, vous pouvez toujours prendre ça à revers. Le sujet, comme vous l'avez dit,
allez-y,
passionnant.
Continuez sur Jaurès, s'il vous plaît.
Non, mais monsieur continuez. Le maire, je ne peux pas supporter qu'à longueur de conseil municipal, je suis toujours obligé de vous rappeler qu'il ne peut pas y avoir une règle pour les 54 autres conseillers municipaux et une règle spécifique pour Emmanuel Lebeau. C'est insupportable.
Non, non, continuez sur Jaurès, il y aura le silence, je vous assure.
Voilà. Et je vous dis juste que pour les personnes qui ont la chance d'écouter les conseils municipaux sur Internet, ils me disent que c'est insupportable. Il y a un brouhaha complet et inaudible qui, comme vous n'avez pu donner la possibilité aux gens de lire les conseils, mais de les écouter, donc je pense que pour les messins qui écoutent les conseils municipaux, j'aimerais simplement que l'on puisse m'écouter dans le silence. Merci. Donc, je disais, certes, Metz n'est pas une ville française de l'intérieur, mais une ville d'entre-deux, entre la germanité et la romanité, l'Allemagne et la France. Alors, arrêtons d'introduire à Metz ce folklore ridicule. Le cas de Jean Lorrain s'inscrit, lui, par contre, dans une logique constructive et heureuse pour la ville de Metz. En lui, les Messins, tous les Messins, reconnaîtront les valeurs de notre ville, l'humanisme, la concorde, la discrétion, et non un homme politique de gauche. N'oubliez jamais, monsieur le maire, que la devise de notre ville a toujours incité, jusqu'à 2008, à l'union entre ses habitants pour être fort face aux difficultés. Je vous remercie, monsieur le maire.
Merci. Alors, monsieur Thiel.
Oui, monsieur le maire, pardonnez-moi, mais je souhaiterais faire un petit cavalier à propos de ces noms de rues qui, pour moi, ne présentent pas de difficultés, encore que j'ai trouvé le propos d'Emmanuel Lebeau assez intéressant. Ce que je voudrais vous dire concerne un rapport avec le Centre Pompidou, en fait, parce que nous venons de fêter le 100e anniversaire de Georges Pompidou. Enfin, quand je dis « nous », le Centre Pompidou de Paris a fêté cela. Et je trouve qu'au Centre Pompidou-Metz, j'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure sur le rapport à propos du tourisme, mais je trouve que le Centre Pompidou de Metz mériterait, à tout le moins, d'avoir la même estampille que le Centre Pompidou de Paris. Le Centre Pompidou de Paris brille dans son forum, hein, et il y aurait toute la place pour le mettre aussi, le portrait de Georges Pompidou par Vasarely, qui est un très beau portrait et qui était une très belle œuvre d'art. Je pense que nous devrions, nous aussi, avoir la copie et en tous les cas la même œuvre de Vasarely représentant le portrait de Georges Pompidou dans le forum du Centre Pompidou de Metz. D'autant que j'y vois, si vous voulez, deux clins d'œil à notre ville et au Centre Pompidou de Metz. Le premier, c'est que l'œuvre est en noir et blanc, qui correspondent aux armes de la ville, enfin en vocabulaire courant, si j'ose dire. Et puis d'autre part, il est hexagonal, il s'inscrit dans un hexagone qui est lui-même repris par le plan d'architecture de Tchégoriban. Alors je trouve que si vous vouliez vous faire le porte-parole de notre ville à ce sujet, je trouve un petit peu dommage que le président du Centre Pompidou de Metz et de Paris à la fois n'ait pas songé, lui, à le faire pour le 100e anniversaire de Georges Pompidou. En tous les cas, je trouve que ça serait une marque d'appartenance extrêmement forte et je ne pense pas que la législation s'y oppose, puisque l'œuvre de Vasarely relève autant de la sculpture que de l'œuvre d'art en général et que je rappelle qu'on a droit à 5 exemplaires originaux d'une œuvre, donc qu'il n'y aurait pas de problème à cet égard pour les droits d'auteur.
Merci, monsieur Thiel. Alors, madame Quillot.
Oui, alors pour ma part, moi j'ai effectué quelques recherches par rapport à la motion qui nous propose Jean Jaurès pour cette place. Et j'ai relevé dans un article de la revue qui s'appelle « Les cahiers Jaurès » qu'il y a un corpus total d'au moins 2046 communes qui ont cette dénomination dans leur voirie. Et il est précisé que si ce nombre total est finalement peu important au regard des quelques 36 000 communes de France, cependant, il est élevé puisque le nom de Jaurès apparaît dans plus de 5% des communes de France et c'est le 5e patronyme historique attribué à une voie communale juste après De Gaulle. Donc il est en 5e place. Aussi, bon, je pensais que si honorer des hommes politiques qui ont marqué notre histoire, c'est bien, mais Jean Jaurès est déjà fortement honoré. Et je pense aussi qu'il faudrait se tourner vers l'avenir et proposer d'autres symboles. Et par exemple, on pourrait rendre hommage aussi à de grands hommes, de grandes femmes de science ou à de grands inventeurs, hommes et femmes méconnus. Je vous remercie.
Merci. Alors, monsieur Maréchal.
Oui, monsieur le maire, Permettez-moi d'abord de vous faire part de mon émotion à la lecture de cette motion. Je crois que Metz, par cette place dite Jean Jaurès, rentre de plein pied dans l'histoire de la République, histoire de la République qui a été marquée par la guerre de 14-18 qui a laissé sur notre département des traces terribles, et Jaurès a été assassiné parce qu'il refusait cette logique meurtrière. Et je crois que de rendre hommage à un homme qui repose au Panthéon, qui a marqué l'histoire non seulement de la République, mais l'histoire du mouvement ouvrier international, c'est un geste tout à fait, j'allais dire, remarquable et anodin en même temps. On apprend beaucoup de choses dans la vie politique. On apprend y compris à propos de ses adversaires politiques. Monsieur Lebeau, ce soir, vient de signer sa filiation avec le Front Lorrain qui, au moment du Front Populaire, parlant du drapeau rouge de la classe ouvrière, traitait ce drapeau de chiffon. Ces mêmes élus de droite qui disaient plutôt Hitler que le Front Populaire. Et là, monsieur Lebeau, vous venez de dire des choses inacceptables
monsieur
du point
le maire.
De vue du droit et du point de vue de l'histoire.
Non, monsieur le maire.
Je termine mon propos. Je rappelle.
Pourront répondre tous les
je
gens qui veulent répondre. Vous aurez la réponse, madame. Ah ben madame, vous pouvez suspendre la séance si vous voulez. Je vous propose 2 minutes. Bien, on va reprendre. Monsieur Maréchal, vous voulez bien terminer, s'il vous plaît.
Oui, je vais terminer par une citation pour rendre hommage au fondateur du Républicain Lorrain, qui, pendant ces périodes troubles, en 1936, apportait dans le débat public messin un autre son de cloche, alors que le Lorrain ou le Messin donnait place à des propos que je ne répéterai pas parce qu'ils sont tout à fait contraires aux valeurs républicaines qui devraient être les nôtres ce soir. Je pense qu'effectivement, cette histoire-là, elle, malheureusement, elle se rejoue. Elle se rejoue aujourd'hui. Et rendre hommage à Jaurès, c'est aussi, quelque part, montrer, alors que notre département, notre ville a eu des ruptures comme ça, une certaine continuité, non pas du point de vue de l'étroitesse de la nationalité, mais bien du point de vue de l'universalisme des valeurs de progrès et des valeurs de la République. Je vous remercie.
Merci. Alors, Madame Quillot. Non, Madame Quillot, pardon, c'est Monsieur Lecoq.
Monsieur le maire, je vous remercie de me donner l'occasion d'évoquer la mémoire de Jean Lorrain. Militant, philosophe et acteur infatigable de la paix, né à Metz le 1er janvier 1921 et mort à Metz le 7 mars 2008. Tant professionnellement au ministère des Anciens Combattants que dans mes engagements dans l'éducation populaire, j'ai travaillé et milité pendant plus de 25 ans à ses côtés. Avant d'évoquer sa notoriété et le fait que la ville de Metz peut s'enorgueillir d'avoir eu un citoyen d'une telle envergure, je veux rappeler l'homme qu'il était. Simple, humble, d'une grande lucidité, d'une grande rigueur dans le travail de la recherche et de l'écriture. Il forçait le respect. C'est face au public, quelle que soit l'assistance, que j'ai pu apprécier toutes ses qualités d'homme, d'ouverture et d'écoute, mais surtout de pédagogue, développant de façon accessible toute la complexité des sujets abordés sur la paix. Cette sagesse s'est forgée par les expériences, les rencontres, les engagements qui ont jalonné son parcours. Je voudrais rappeler 3 périodes essentielles qui ont marqué sa vie. Son engagement en novembre 1942 dans l'armée d'Afrique. Durant 3 ans, il participe à la campagne de Tunisie, au débarquement de Provence et à la campagne de France et d'Alsace. Ces années ont été révélatrices dans son engagement à enseigner tout au long de sa vie que si la guerre n'est pas une fatalité, la paix est avant tout une affaire d'éducation. Devenu professeur de philosophie, il enseigne la paix aux jeunes Mosellans, notamment à travers l'éducation populaire. Et en 1957, il fonde les Maisons des Jeunes et de la Culture en Moselle. Il sera même secrétaire général de la Fédération française des MJC. Les années 60 ont été déterminantes pour l'essor de l'éducation populaire en Moselle. Et il a été cofondateur du Carrefour des organisations de jeunesse et d'éducation populaire qui ont récemment fêté leur 50e anniversaire. En 71, il adhère au Parti socialiste. En 78, il est élu député de la Moselle. Réélu en 81, il est nommé ministre des Anciens Combattants par François Mitterrand, fonction qu'il occupera jusqu'en mars 86. On lui doit, entre autres, la commémoration du 8 mai, la reconnaissance des malgré nous, ou encore la promotion de la réflexion républicaine sur le devoir de mémoire. Mais il a permis la concrétisation de l'Europe de la paix et des relations franco-allemandes dans la réconciliation. Rappelons-nous cette image inoubliable de François Mitterrand et Helmut Kohl à Verdun le 22 septembre 1984. Député jusqu'en 1993, il se consacrera ensuite essentiellement à l'écriture et à la pédagogie à la paix. Je rappellerai seulement deux ouvrages qui sont intéressants de relire peut-être, De l'ennui à la joie, élément d'une pédagogie de la paix, ou Le journal de guerre d'un philosophe. La ville de Metz se devait de rendre hommage à ce grand serviteur de l'État qui a beaucoup apporté à sa ville dans son souci de développer l'éducation et la culture pour tous. Je salue le choix judicieux de cette artère au cœur du quartier de l'Amphithéâtre, parallèle à l'avenue François Mitterrand, dont il fut le ministre, à la rue Pierre-Mendès-France, qui fut une référence pour lui, et débouchant sur l'avenue André Malraux, qui était le ministre de la Culture lors de la création des MJC. Mon souhait serait que l'inauguration de cette voie puisse avoir lieu lors du 5e anniversaire de sa mort, le 7 mars 2013. Merci.
Merci. Merci, Monsieur Lecoq. Je voudrais d'abord dire à Monsieur Lecoq que j'avais l'intention de parler de Jean Lorrain, parce que c'est un peu mon père en politique. Et il l'a tellement bien fait que je n'en dirai pas plus. Simplement, j'ajouterai, pour avoir à habiter dans la rue où il avait son bureau, que son comportement dans le quartier, il avait une R6. Hein. Il allait acheter le Républicain Lorrain avec son argent tous les matins au bureau de tabac. Il traversait, il disait bonjour aux gens, et sa modestie arrachait l'admiration de tout le monde. Quand on connaît quelquefois les errements de certains hauts responsables politiques, on peut mesurer, et même quand il a été ministre, il a gardé des locaux à cet endroit-là, il tenait ses permanences. Locaux d'ailleurs dont j'étais en quelque sorte l'inventeur, parce qu'à ces périodes-là, dans les années 70, pour pouvoir louer un local, dans la situation politique dans laquelle nous étions, c'était pratiquement impossible, et on avait réussi à trouver un local complètement désaffecté, en mauvais état. J'ajouterais qu'il a toujours été d'une énergie farouche, sous ses airs, d'homme très calme et très doux. Et il avait des convictions chevillées au corps et une capacité à assumer n'importe quelle situation avec courage. Et je l'ai vu dans les bons comme dans les mauvais jours, toujours avec la même droiture, la même force de caractère, capable d'essuyer les pires quolibets, les insultes, et en même temps d'être là modestement avec les militants et avec la population, comme s'il n'avait jamais eu la carrière qu'il a eue. Je vais vous faire une confidence. On vient d'entendre qu'il s'est engagé dans l'armée d'Afrique en 1942. Eh bien, figurez-vous, moi, j'ai rédigé d'innombrables tracts pour lui. J'ai rédigé son CV. C'est moi qui ai découvert, alors que je le connaissais depuis 72, c'est moi qui ai découvert un jour qu'il avait fait cette guerre, qu'il avait fait la campagne d'Italie, qu'il était sous-officier et qu'il avait fait ensuite la campagne d'Allemagne. Il ne l'avait jamais dit. Il ne l'avait jamais dit. Nous ne le savions pas.
Et c'est en faisant son CV, à un moment donné, je me suis dit, mais est-ce qu'il est malgré nous? Qu'est-ce qui s'est passé? Je savais bien l'âge qu'il avait. Et je me suis demandé ce qu'il avait fait pendant la guerre. Et c'est comme ça qu'un jour, dans un petit journal dont j'étais le directeur, qui s'appelle Le Chardon, j'ai publié cette partie de la vie de Jean Lorrain que personne ne connaissait parce qu'il ne le disait pas. Voilà le caractère de Jean Lorrain. Et donc, effectivement, il est bien situé entre Mendès France, qui l'a inspiré, parce qu'il avait tout à fait l'esprit du mendésisme, d'une part, et François Mitterrand, qui a été son président. Je voudrais dire, par ailleurs, que je suis aussi content, je vais venir sur le fond, de vous présenter la rue des Messageries avec ce nom, puisqu'il est important que les lieux gardent la mémoire des lieux. Il y avait là la gare de marchandises, c'était les messageries. Et finalement, après mûre réflexion, malgré toutes les bonnes idées qu'on a pu avoir, eh bien, je pense qu'il est bon qu'on garde ce nom-là, puisque c'est un endroit, comme il y a une avenue de l'amphithéâtre, hein, une rue aux arènes, qu'on garde la mémoire des lieux à travers les noms qui sont donnés. Même chose pour la passerelle du Graouli, puisqu'on a découvert, grâce à nos archéologues de Metz Métropole, une griffe de Graouli authentique, exactement sous la passerelle, et même un petit bout de l'étole de Saint-Clément. C'est à cet endroit-là que les choses se sont passées, parce que l'animal s'est débattu. Je voudrais maintenant en venir à Jean Jaurès et à Georges Veil. Georges Veil, probablement que personne n'en avait parlé. Dans le même journal que j'ai évoqué tout à l'heure, j'ai publié la vie de Georges Veil, parce que c'est un universitaire allemand qui avait fait une thèse sur lui, qui est venu m'en parler. Mais c'était dans les années 75. Et je suis tombé des nues en apprenant qu'il y avait eu un député de gauche à Metz avant la guerre 14. J'étais encore plus étonné d'apprendre que ce député avait été réélu après la guerre 14. Effectivement, il était d'origine strasbourgeoise, mais il s'est présenté à Metz. Il y avait une forte classe ouvrière à l'époque à cause des constructions, notamment des fortifications allemandes. Je vous rappelle d'ailleurs que cette population ouvrière est encore présente, puisqu'il y a eu même un soviet de soldats et d'ouvriers qui a été constitué entre le 11 novembre 1918 et le 19 novembre 1918, date à laquelle est entrée l'armée française dans la ville, et que donc les traditions politiques qui avaient été un peu gommées sont quelquefois bonnes à rappeler. Et que ce Georges Veil-là était un familier de Jean Jaurès, puisqu'à l'époque, il s'agissait bien de l'international socialiste, et que toutes ces personnes se fréquentaient et essayaient désespérément d'éviter la guerre en pensant que la classe ouvrière n'irait pas prendre les fusils les uns contre les autres et qu'on arrivera à trouver une solution différente sans s'entretuer. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné et les choses sont ainsi. Je voudrais dire, s'agissant de Jean Jaurès, que j'ai tellement entendu parler de Jean Jaurès dans la bouche du président de la République sortant, qui en a fait une espèce d'icône nationale, que j'ai pensé qu'il n'y aurait vraiment aucun débat ici. Voilà. Il y a, de mon point de vue, dans les gloires nationales, il y a des tas de gens qui ne sont pas ni catholiques, ni Front National, qui adorent Jeanne d'Arc, j'en fais partie. J'adore aussi les personnes qui ont eu des attitudes de droite. Je donne volontiers des livres de Barrès. Quand je croise quelqu'un, j'en ai même donné un à Nicolas Sarkozy, on est là devant le respect de notre histoire collective. Et je donc considère qu'il n'y a pas à trier, je ne crois pas que Jean XXIII soit jamais venu à Metz, il a bien un boulevard, et quelque part, la décision qui a été prise, je la respecterai, et Jean XXIII, il y en a d'autres d'ailleurs, on m'a mis une liste de gens qui ont été honorés à Metz, pas parce qu'ils avaient des attaches locales. Je pense que Jean Jaurès appartient aux grands personnages de notre histoire. Et effectivement, comme maire, je pense que quelques noms, ici ou là, ça ne fait pas beaucoup, permettront de modérer l'hémiplégie nominative de Metz dans la nomination des rues, puisqu'il y avait quand même une grande spécialité allant dans l'autre sens. Il n'y avait qu'une exception, d'ailleurs, c'était le rabbin Elie Bloch, parce que le rabbin Elie Bloch était un homme de gauche, et comme il est mort en camp de concentration, après avoir fait un travail considérable au service de la jeunesse, de la communauté juive repliée à Poitiers, il a eu le nom d'une rue. C'était la seule personne à ma connaissance de cette sensibilité politique. Et d'ailleurs, il sentait le fagot. Il n'était pas trop apprécié par son rabbin principal, qui trouvait que cet homme n'était pas présentable. Voilà un petit peu pour le bilan. Mais je peux en parler volontiers. Je suis de ce côté-là passionné, et je trouve que c'est passionnant. Maintenant, je voudrais répondre à Monsieur Thiel, qui nous dit que
le portrait de Pompidou de Vasarely est très très beau dans le grand hall du Centre Pompidou Paris. Moi, je pense que déjà, le fait que le Centre Pompidou s'appelle Pompidou, c'est déjà une belle reconnaissance de Pompidou. On peut dire que s'il y a un endroit où Pompidou est bien, alors maintenant, je poserai la question. Hein, je poserai la question. Je pense que le principal, c'est déjà bien le nom du centre, puisque on a, à travers ce nom, un honneur qui est fait à ce président de la République disparu, qui est considérable, et je pense que c'est une très bonne chose. Maintenant, on va voir hein, si d'autres exemplaires existent. J'interrogerai Monsieur Seban sur cette question et nous verrons. Parce qu'en fait, même si c'est possible, ce n'est pas forcément utile, on va voir. Hein? Et je vous remercie pour tout ce débat. Je voudrais enfin parler des dames, parce qu'effectivement, Mme Zimmermann nous a déjà fait la requête. Je voudrais vous dire, Mme Zimmermann, qu'on n'a pas oublié le nom d'Adrienne Thomas, qui est un grand écrivain, alors je m'excuse, allemand, hein? Oui, un grand écrivain allemand qui s'est illustré en écrivant dans la gare de Metz pendant 3 ans ses souvenirs et ses mémoires, alors qu'elle était en quelque sorte infirmière, enfin elle s'occupait de tous les blessés qui arrivaient en paquet à la gare de Metz et qui étaient réorientés ailleurs. Et nous sommes en discussion avec la SNCF pour donner des noms aux 2 passages qui traversent la gare. Et donc, cette dénomination appartient à la SNCF, mais la SNCF m'a consulté. Et donc, on avance, et vous n'aurez pas à décider de ça, puisque ça ne se passera pas ici, mais il est très possible que Adrienne Thomas, hein, qui d'ailleurs est un nom de plume, hein, soit honorée par l'un de ces 2 passages, l'autre pouvant être éventuellement l'architecte de la gare. Voilà ce qui est envisagé avec la SNCF, et qui permettrait de répondre au moins partiellement à votre quête, madame, que je respecte beaucoup, mais effectivement, il y a du temps, il y a beaucoup de travail, il me faudra beaucoup de mandats pour y arriver. Voilà, je vous remercie et je vais mettre ça aux voix. Alors, qui est contre ? 1 contre, qui s'abstient ?
Une demande d'explication de vote, je peux.
Ah ben, vous ne m'aviez pas dit ça, j'ai demandé qui est contre,
non,
vous avez
levé la
main.
Non, mais je demande une explication de vote, monsieur le maire.
Alors, allez-y, vous pouvez expliquer votre vote.
Premier élément, monsieur le maire, je regrette fortement que lorsqu'il y a des propos outranciers à l'égard d'une personne, que vous laissiez le débat comme si ce n'était jamais rien passé. Ça fait quand même la 7e fois qu'un de vos conseillers a des propos plus qu'outranciers et je trouve insultant, injurieux. Je trouve que c'est absolument pas à l'image de la ville de Metz que d'avoir ce type de débat. Et on peut avoir une réflexion.
Votre vote ?
Non, mais monsieur le maire, attendez, j'étais... Je pense que si vous aviez été mis en cause, comme j'ai été mis en cause, je pense que vous avez été mis en cause avec votre Légion d'honneur. Vous savez ce que c'est de prendre quelque chose en pleine figure. Alors, monsieur le maire, moi, je me souviens quand vous avez été mis en cause. J'étais dans le public et je suis venu à vos côtés quand vous êtes sorti parce que je trouvais ça inacceptable et je vous l'ai dit. Et j'étais à vos côtés et moi, je me souviens qu'il y a des choses qui ne sont pas tolérables. Et je pense que, en tant que maire, votre attitude ce soir, je trouve qu'elle n'est pas à la hauteur de la fonction que vous avez.
Quel est votre vote ?
Non, monsieur le maire, attendez. Là, on est dans le fondement même de nos valeurs. Ce qui fait qu'on est tous autour d'une table. Et quand on qualifie quelqu'un comme il a été qualifié, je trouve franchement, monsieur le maire, vous n'avez pas été digne de la fonction que les médecins vous ont donnée. Alors, sur mon vote, c'est très simple. Si les gens n'ont pas entendu tout le bien que je disais de Jean Jaurès, s'ils sont sourds, c'est dommage. Mais je dis juste que, jusqu'à présent, Jean Jaurès n'avait pas de lien avec la ville de Metz, que je ne souhaite pas que l'on fasse une exception. Et je demanderai simplement un vote séparé, si vous le souhaitez, sur Jean Jaurès et Georges Veil, pour que je puisse m'abstenir sur ces 2 noms, parce que les autres, je trouve, je suis totalement d'accord.
Voilà, alors le vote est groupé. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Alors, je compte les abstentions. Levez bien la main, s'il vous plaît, ceux qui s'abstiennent là.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Tout le monde s'abstient dans le groupe de Madame Zimmermann.
Pas Madame Kyo.
Sauf Madame Kyo. Madame Kyo vote pour. Alors, qui est pour ? On va lever la main, parce que comme ça sera plus sûr. Voilà. Qui est pour ? Donc, Madame Kyo et tout le groupe de Monsieur Thiel. Merci.